Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, je crois pouvoir terminer aujourd'hui le chapitre numéro 1 de Saint Jean. Je vous l'ai déjà dit, c'est certainement le chapitre le plus difficile à expliquer. J'essaie d'utiliser les pères, mais je ne suis pas Saint Jérôme moi-même, donc c'est parfois pas évident de choisir entre ce qu'on dit les pères. Il y a tellement de choses à dire. Bon, j'essaie d'expliquer le mieux possible. J'espère que les auditeurs seront patients avec moi. Nous en sommes à la page 19 sur le polycopie qui contient les commentaires des Pères de l'Église pour les 5 premiers chapitres de Saint Jean. Page 19 au milieu de la page, Saint Jean, versets 41 à 42 du premier chapitre. Donc nous en sommes au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va recevoir... prendre le relais en quelque sorte qui lui est donné par Saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur Jésus-Christ va récupérer les disciples de Saint Jean-Baptiste pour en faire ses premiers apôtres avec Saint André. Saint André va aller chercher son frère Saint Simon qui va devenir Saint Pierre. Voilà ce que dit les versets 41 et 42. Il trouva le premier, son frère Simon. Donc ici, qui est ce « il » Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est Saint André. Il faut prendre le verset précédent. André, verset 40 du chapitre 1, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva, donc Saint André trouva son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, « Vous êtes Simon, fils de Jonas, vous serez appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » En effet, Saint-Pierre va devenir, à la fin de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, il va devenir le premier pape, donc celui sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ va fonder son Église. Donc le fondateur de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, le Saint-Esprit, mais il va utiliser comme fondation humaine Saint-Pierre. Les pères de l'Église font remarquer que le mot « pierre » a un sens allégorique. Le mot « pierre » signifie la fermeté dans la foi surtout. Cet apôtre est appelé « pierre » à cause, disent-ils, de la fermeté de la foi avec laquelle il s'attacha à cette pierre dont l'apôtre a dit « la pierre était Jésus-Christ ». Qui délivre des embûches de l'ennemi, ceux qui espèrent en lui, et qui répand sur eux, comme un fleuve, l'abondance de ses grâces spirituelles. Hein? Donc notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs, par les constructeurs. Et cette pierre va devenir la pierre qui va écraser le démon et servir de fondation à l'église naissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc comprendre donc comment notre Seigneur Jésus-Christ travaille, c'est-à-dire qu'il va reprendre il va continuer en quelque sorte les constructions qui ont été commencées par Saint Jean-Baptiste. Imaginez quelqu'un qui a creusé les premières fondations. Et notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser les fondations préparées par Saint Jean-Baptiste pour construire sa propre Église, qui est la continuation évidemment, de l'Église de l'Ancien Testament. Saint Jean-Baptiste se trouve donc à la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc il reprend, si vous voulez, tout ce qui a été amené par les prophètes. Les prophètes arrivent jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là intervient Saint Jean-Baptiste, qui est à la fois de l'Ancien Testament et à la fois du Nouveau Testament, parce qu'il est né, 6 mois avant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il appartient encore à l'Ancien Testament, mais il est la charnière avec le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on dit que Saint Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament ou le premier du Nouveau, comme vous voulez. Mais il est celui donc qui continue tout le travail qui a été fourni par les prophètes de l'Ancien Testament, qui vont lentement élever le peuple hébreu jusqu'à l'acceptation du Messie. C'était un long travail de préparation à cause de la tendance du peuple hébreu à se vautrer dans les plaisirs sensuels et à se vautrer aussi, dans l'Ancien Testament surtout, dans l'idolâtrie. On voit ça très souvent dans l'Ancien Testament, par exemple avec l'histoire du veau d'or. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va fonder, si vous voulez, son Église nouvelle, donc l'Église du Nouveau Testament, sur l'Église de l'Ancien Testament. En fait, c'est une seule et vraie Église, une seule et même Église, pardon. On le voit très bien lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église par les grands historiens qui ont vraiment l'esprit d'Église, comme Darras ou Rohrbacher, sont les deux meilleurs historiens français. On voit très bien comment, pour eux, l'Église catholique ne commence pas avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous étudiez, vous ouvrez les premières pages de l'œuvre gigantesque de Darras, son histoire de l'Église universelle, ou l'œuvre de Rohrbacher, ils commencent tous les deux par la création du monde. Et ensuite, il y a toute l'histoire du peuple juif, depuis la création du monde jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, l'étude de notre Seigneur Jésus-Christ, donc de sa vie active, surtout pendant 3 ans, et ensuite l'explosion, l'expansion de l'Église catholique au cours des siècles. Ceux dont la vertu devait jeter un vif éclat dès leur première année, disent les pères, ont reçu alors leur nom, tandis que ceux dont le mérite et la vertu ne devaient se produire que plus tard, n'ont reçu ici que plus tard le nom de Dieu que Dieu leur destinait. On voit que dès le début, notre Seigneur Jésus-Christ change le nom de Saint-Pierre pour bien manifester qu'il est celui sur lequel il va fonder son Église. Saint-Pierre n'est pas encore le chef de l'Église, le chef humain de l'Église. Il le deviendra uniquement après la résurrection de notre Seigneur. Vous savez que c'est le cours de après la résurrection de notre Seigneur, on a déjà vu tout ça dans les autres évangiles. Après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant le temps le temps avant l'ascension, donc les 40 jours qu'ont suivi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ va préparer ses apôtres, achever la préparation des apôtres plus exactement, et va nommer Saint-Pierre, juste après la pêche miraculeuse, il va nommer Saint-Pierre chef de l'Église. Mais il le prépare déjà maintenant en changeant son nom pour bien montrer que son rôle sera d'être la fondation humaine de l'Église. En effet, Simon veut dire « qui est obéissant ». Il est fils de Jonas, fils de Jean. Jonas signifie « grâce ». Johanna signifie « grâce » et Jonas signifie « la colombe ». Le Sauveur semble donc lui dire « vous êtes docile et obéissant, vous êtes le fils de la grâce ou le fils de la colombe », c'est-à-dire de l'Esprit-Saint, car c'est l'Esprit-Saint qui vous a inspiré cette humilité, qui vous a fait venir à moi sous la parole d'André, votre frère. Vous n'avez pas dédaigné, vous, son aîné, de suivre celui qui était plus jeune que tous, car le mérite de la foi l'emporte sur les prérogatives de l'âge. C'est-à-dire Saint-Pierre était plus âgé que son frère, André, Saint-André. Et notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, va choisir Saint-Pierre et donc change son nom pour bien montrer que la vie passée de Saint-Pierre va s'arrêter, va complètement changer. Il va devenir un des premiers apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a un changement total une espèce d'onction, quelque sorte, ce changement de nom traduit une espèce d'onction spéciale que notre Seigneur Jésus-Christ a préparée pour Saint-Pierre et tous ceux qui vont le suivre. Saint-Pierre n'est pas encore prêtre. De toute façon, il ne va devenir prêtre qu'à la fin de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne va devenir prêtre que le jeudi saint. Mais notre Seigneur Jésus-Christ prépare déjà le terrain dès le premier moment. Et c'est très intéressant de voir que notre Seigneur Jésus-Christ ne change pas le nom de Simon en Pierre après plusieurs mois, plusieurs années d'apostolat. Non, dès le début, dès la première rencontre, tout de suite, il le met à part pour changer son nom. Tu étais Simon, vous étiez Simon, vous devenez Cephas, Pierre. Et le père de l'Église explique en bas de la page 19, le Christ est oint, non corporellement, mais avec la grâce spirituelle, la grâce de l'union hypostatique, et la grâce habituelle par laquelle, comme homme, il fut créé par Dieu et consacré comme prêtre, maître, prophète, roi, législateur et rédempteur du monde. Ton Seigneur est tout ça à la fois. Bon. Il est prêtre dans son humanité, mais il est aussi rédempteur du monde dans sa divinité. On voit très bien cette onction qui vient de l'union hypostatique. Je vous rappelle que l'union hypostatique, c'est l'union dans la personne. Hypostase en grec, c'est la personne. La grâce de l'union hypostatique, ça veut dire la grâce de l'union entre la nature divine et la nature humaine dans une seule et même personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc il y a une onction divine sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ va en quelque sorte transférer une toute petite portion de cette onction sur le prêtre que va devenir Saint-Pierre. C'est pour ça qu'on dit que le prêtre est loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre est un autre Christ parce qu'il possède un pouvoir que lui a donné le Christ, pouvoir qui provient de l'union hypostatique de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre, bien sûr, n'est pas Dieu, mais il a un pouvoir divin dans le sens qu'il a reçu de Dieu un privilège qui fait que le prêtre devient un autre Christ. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à ses prêtres des pouvoirs qu'il a refusés à sa mère. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est important de le comprendre. Notre Seigneur Marie ne peut pas pardonner un seul péché véniel. Elle n'a pas ce pouvoir. Donc, c'est une très belle phrase qu'il faut méditer. Elle est extrêmement profonde des pères. Donc, le Christ est oint de la grâce de l'union hypostatique et la grâce habituelle, par laquelle, comme homme, il fut créé par Dieu et consacré comme prêtre. Qu'est-ce que c'est que cette grâce habituelle? C'est la grâce sanctifiante qui était en notre Seigneur Jésus-Christ, de façon parfaite, évidemment, la même grâce sanctifiante qui est toute proportion gardée en chacun d'entre nous si nous sommes en état de grâce. La grâce habituelle, ça veut dire la grâce qui est devenue un habitus. Il y a une différence énorme, évidemment, entre la grâce habituelle en notre Seigneur Jésus-Christ et la grâce habituelle en nous. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu ne peut pas perdre cette grâce habituelle. Elle est donc hantée sur notre Seigneur Jésus-Christ. La nôtre de grâce habituelle, si nous sommes en état de grâce, nous sommes en état de grâce habituelle. La grâce habituelle et la grâce sanctifiante, c'est la même chose. Donc la grâce habituelle qui est en nous est une grâce beaucoup plus volatile. Pourquoi? Parce que nous pouvons hélas la perdre par le péché, ce qui n'est pas le cas du tout pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant Dieu ne peut pas pécher, donc ne peut pas perdre la grâce habituelle, et bien sûr ne peut pas perdre l'union hypostatique, à tel point que jusqu'au dernier moment sur la terre, même dans les affres de la passion, il gardait cette union hypostatique. Union hypostatique, c'est-à-dire le fait que, en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, il avait une double nature, nature humaine, nature divine, double intelligence, intelligence humaine, intelligence divine, double volonté, volonté humaine, volonté divine. C'est un mystère absolument incroyable. Ce mystère est tellement élevé qu'il a été la cause de nombreuses hérésies, parce que beaucoup de gens qui ont manqué justement d'obéissance ont pensé qu'il n'était pas possible qu'un Dieu puisse souffrir comme notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Donc, où il est Dieu, et à ce moment-là, il ne peut pas souffrir, ou il est homme, et à ce moment-là, il ne peut pas nous sauver. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Parce qu'il est vrai Dieu, il peut nous sauver. Parce qu'il est véritablement homme, il peut souffrir. C'était le point de départ de toutes les hérésies de Nestorius et surtout l'hérésie d'Arius. Alors continuons d'avancer. Passons à la page 20, versets 43-46 du chapitre 1 de Saint Jean. Le lendemain, Jésus voulut aller en Galilée et rencontra Philippe et lui dit « Suivez-moi ». Or Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et qu'ont annoncé les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit « De Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Venez et voyez. » On voit l'esprit apostolique des apôtres, c'est extraordinaire. L'esprit missionnaire des apôtres, ils viennent de trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore vu de miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout à fait le début. Ils sont des béotiens, littéralement, dans la connaissance de Dieu. Et la première chose qu'ils font, c'est tout de suite attirer leurs amis, attirer ceux qu'ils connaissent bien, pour les attirer vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut qu'on nous fassions, nous aussi, c'est un message pour nous. Lorsque nous découvrons notre Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas de garder pour nous seuls la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut transmettre cette connaissance. Et on voit très bien chez Saint André, par exemple, tout de suite, il va chercher son frère. Philippe va chercher Nathanaël. Et ils vont se pousser les uns les autres pour se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on rencontre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous ayons un désir de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ aux autres. Il ne s'agit pas du tout de garder pour nous seuls cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'on a connu la vérité, il faut transférer cette vérité à ceux dont nous avons la charge ou à ceux sur lesquels nous pouvons avoir une influence. C'est quelque chose d'extrêmement important. Rappelez-vous le triple devoir de transmission de ceux qui ont charge d'âme, magistère, ministère, gouvernement. Magistère, devoir d'enseignement, ministère de sanctification, gouvernement, direction. Malheur à ceux qui ne font pas justement ce qu'ont fait les apôtres, les premiers apôtres, qui n'ont pas encore vu, qui connaissent très peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ils n'ont vu aucun miracle, mais ils ont déjà compris qu'il fallait qu'ils aillent chercher les autres. Et donc, ils vont chercher d'autres apôtres et les amènent, d'autres futurs apôtres et les amènent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'esprit apostolique. Donc, malheur, encore une fois, à celui qui a découvert notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne cherche pas à faire profiter les autres de la découverte qu'il a faite. Imaginez, c'est ça qui est un peu triste d'ailleurs, souvent dans la tradition de l'Église, c'est que, surtout aujourd'hui, parfois des gens découvrent la foi catholique, ils redécouvrent la messe traditionnelle par exemple, et puis ils gardent ça pour eux, mais ne cherchent pas à diffuser cette connaissance de Dieu qui est toute nouvelle pour eux. Mais il est important que quand quelqu'un a redécouvert la messe traditionnelle, redécouvert son catéchisme, redécouvert la foi de son enfance par exemple, il faut qu'il ait l'envie de transmettre cette foi à tous ceux qui sont autour de lui. C'est évident qu'il faut agir avec bon sens, on ne va pas transmettre cette foi à n'importe qui, il ne faut pas jeter les perles au milieu des pourceaux, c'est évident, mais nous avons ce devoir de transmettre. Rappelez-vous, je vous l'ai souvent expliqué, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est capital à comprendre, c'était le crime. Les années 60, la fin du règne de Pie XII, beaucoup de catholiques ont arrêté de transmettre. Ça commençait en fait, cet arrêt dans la transmission de la foi a commencé surtout juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Bon. Il est vrai que ça a été préparé par des manœuvres politiques de Gaulle. Première chose qu'a fait De Gaulle en 1945 après la guerre, ça a été l'épuration. On parle d'au moins 150 000 assassinats par l'épuration. C'est De Gaulle qui en est responsable. Et De Gaulle a fait assassiner toutes les personnes qui étaient susceptibles de réintroduire un esprit catholique en France. Mais pas que De Gaulle, est celui qui a fait sauter le mot de Dieu, la Constitution. Et donc, en 1958, il a préparé ce travail, le travail d'apostasie de l'Église, l'apostasie, pardon, de la France, a été préparé de longue date par De Gaulle, juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour justement amener lentement les catholiques à ne plus chercher à transmettre leur foi. Et pour être sûr d'arriver à son but, qu'est-ce qu'a fait de Gaulle? Il a éliminé, sous prétexte de coopération avec l'Allemagne nazie, il a éliminé soigneusement tous ceux qui étaient susceptibles, surtout dans l'armée, dans le corps magistériel, dans le corps de la justice, etc., dans les professeurs d'université, partout, il a éliminé tous ceux qui étaient susceptibles de ramener un esprit chrétien en France. Et la France meurt actuellement de tout ça. C'est De Gaulle, littéralement, qui a tué la France. Tué la France. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc il faut nous inspirer de cet esprit apostolique que nous voyons chez les apôtres et faire la même chose. Si nous avons compris, le bon Dieu a eu pitié de nous, nous a donné la grâce de la conversion, mais nous avons le devoir impératif de transmettre les fruits de notre conversion à ceux qui sont toujours autour de nous, au moins à ceux qui sont capables de comprendre ce qui se passe. Alors voyons un petit peu les commentaires de ces versets 43, 44, 45 et 46 par les pères. Donc, on retrouve là, en verset 46, une phrase importante, « Venez et voyez ». Vous voyez ? Donc, non seulement Saint-Philippe va appeler Saint-Nathanaël, mais il ne se contente pas de l'appeler en disant « Nous avons trouvé le Messie, venez et voyez ». Donc il fait un petit peu ce qu'avait déjà fait Saint-André avec son frère Philippe et ce qu'a fait ce qu'ont fait les premiers apôtres à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ en quittant Saint-Jean-Baptiste. N'oubliez pas tout le travail travail de Saint-André, justement, qui a vu pour la première fois notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur va reprendre les mêmes paroles, « Venez et voyez ». Où habitez-vous, Seigneur ? Venez et voyez. C'est au verset 37, et 38 et 39 de ce même chapitre 1 de Saint-Jean. Je vous rappelle le texte, on retrouve exactement les mêmes paroles. Il y a les mêmes paroles, c'est intéressant, au verset 39 et au verset 46. Verset 38, je vous relis les versets 38 et 39. Jésus s'était retourné et voyant que les deux disciples de Saint Jean-Baptiste le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeurez-vous ? » Et il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent et virent où il demeurait, ils restèrent chez lui. Verset 46, on retrouve la même phrase. Nathanaël dit à Saint-Philippe, « De Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Venez et voyez. » Vous voyez ? Notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas d'attirer, venez, mais voyez et restez. Venez, voyez, et ils vinrent, ils virent et ils restèrent. Donc trois mots importants. Venir, voir, rester. Venir jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, voir notre Seigneur Jésus-Christ pour voir où il demeure et rester chez lui. C'est tout le travail de conversion. On commence par chercher notre Seigneur Jésus-Christ, puis on le trouve avec la grâce du bon Dieu, on le voit, on voit où il demeure, et à ce moment-là, on reste chez lui. C'est la conversion. Sur le point d'appeler de nouveaux disciples à sa suite, notre Seigneur se dirige vers la Galilée, ce qui signifie transmigration et changement. Et il apprend ainsi à ceux qui le suivent à sortir d'eux-mêmes, à faire de continuels progrès dans la vertu et à parvenir à la joie éternelle par les souffrances, comme il a lui-même voulu avancer et croître en sagesse, en âge, en grâce devant Dieu et devant les hommes, et passer par les souffrances avant de ressusciter et d'entrer dans sa gloire. Dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas recule. Donc il ne s'agit pas simplement de chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut le suivre pour voir où il demeure. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois, je crois, au dernier cours, mais c'est très important. Voir notre Seigneur Jésus-Christ, le chercher, le trouver, et une fois qu'on l'a trouvé, demander où il demeure, et une fois qu'on a vu où demeurait notre Seigneur Jésus-Christ, il faut rester chez lui. Rester chez lui pour, se remplir notre âme de la grâce sanctifiante que notre Seigneur Jésus-Christ donne à tous ceux qui veulent le suivre. Vous voyez Il est évident que cela passe par les souffrances, car nul ne peut pénétrer au ciel sans passer par le Golgotha. Le moyen, la clé d'entrée au paradis, c'est la clé de la croix. La croix, c'est le Golgotha. On voit très bien chez les premiers apôtres, donc ils vont participer à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ pour participer à sa passion. Hein. C'est ce qui va leur être demandé. Ils vont pas le faire pendant la passion elle-même, parce que là, ils vont tous se sauver. Mais après la passion, ils vont devoir participer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et pas leur martyr. Ils vont tous mourir martyrs, sauf Saint Jean, qui est mort de sa belle mort. Mais tous les autres apôtres, si on parle de Saint André, de Saint Pierre, Saint Philippe, Nathanaël, Saint Nathanaël, tous ces apôtres vont mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut vraiment, vraiment méditer ces choses-là. Si je veux être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, je dois ne pas me contenter de l'avoir rencontré. Il faut que je le suive jusque chez lui pour faire ma demeure chez lui, afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse faire de ma maison sa maison. C'est le travail de la grâce sanctifiante. Donc il rencontra Philippe et Jésus lui dit, suivez-moi. On suit Jésus, disent les pères, quand on imite, c'est page 20, page 20 au milieu de la page, on suit Jésus quand on imite son humilité et sa passion pour avoir part à la gloire de sa résurrection, son ascension. Donc on passe d'abord par l'humilité de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour après monter à la résurrection, à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut pas passer à l'église triomphante, l'église du ciel, sans passer par l'église souffrante. L'église souffrante, il y en a deux. Il y a d'abord le purgatoire, bien sûr. Strictement parlant, l'église souffrante, c'est l'église du purgatoire. Mais l'église du purgatoire, ce n'est que ce sont que les souffrances passives des dernières purifications avant de rentrer au ciel. Mais avant ces souffrances passives, il y a des souffrances actives que nous devons choisir et porter sur nos épaules pendant notre vie ici-bas. On ne va pas au ciel en carrosse, on ne va pas au ciel sur un tapis roulant, hein, attention. Donc on a besoin de suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans ses ignominies, dans sa passion, pour pouvoir le suivre dans sa résurrection et son ascension. J'insiste sur ces deux phrases ici des pères sont très importantes. Donc pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut se sortir de nous-mêmes et faire ses continuels progrès dans la vertu. Celui qui veut venir après moi, qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix, qu'il prenne ma croix et qu'il me suive. Vous voyez, on retrouve là les mêmes idées chez les pères. Notre Seigneur apprend à ceux qui le suivent à sortir d'eux-mêmes, se renoncer donc, à faire des continuels progrès dans la vertu et à parvenir à la joie éternelle par les souffrances, ces souffrances de la croix. Donc il y a pas, on ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ et se mettre sur le chemin du paradis sans se renoncer à soi-même. Celui qui veut une petite vie bien tranquille sur la terre, il ne peut pas devenir catholique, c'est impossible. Donc, sans le passage par l'humilité et la passion, on ne peut pas passer ensuite à la résurrection et l'ascension de notre Seigneur, donc au ciel. On passe par la souffrance pour aller au ciel. La souffrance purifie. Alors, ici une petite note que j'ai trouvée, je ne sais plus trop où. Rupert et Janssen pensent que Nathanaël et Bartholomée sont le même apôtre. C'est possible. S'ils donnent quelques raisons, les pères donnent quelques raisons. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Ce n'est pas de moi, hein. C'est des choses que j'ai trouvées dans les livres que j'ai consultés pour préparer ce cours. Mais je ne me rappelle plus parce que ce polycopier a été écrit il y a très longtemps, il y a de nombreuses années. Alors, je ne me rappelle plus exactement où j'ai trouvé tout ça. Les autres évangélistes joignent toujours Philippe et Bartholomée, comme Saint Jean joint Philippe et Nathanaël. Donc, on ne lit nulle part que le Christ n'est appelé Bartholomée, sauf s'il est en fait Nathanaël. Bon, ce n'est pas deux fois que Nathanaël et Bartholomée sont le même apôtre, mais c'est ce que disent certains historiens ecclésiastiques. Les trois autres évangélistes qui mentionnent Bartholomée ne parlent jamais de Nathanaël et inversement avec Jean. Autre raison, Saint Jean associe Nathanaël avec les apôtres Pierre, Thomas, Jacques et Jean lors de la pêche et de la vision de Jésus. Nathanaël serait donc un apôtre. On ne voit pas qui il pourrait être s'il n'était pas Bartholomée. Bartholomée n'est pas un véritable surnom, mais indique simplement qu'il était le fils de Ptolémée, Bar en hébreu veut dire fils de. Donc, Bar Jonas, fils de Jonas. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Pierre. Vous êtes Simon, fils de Jonas. Bar Jonas, vous serez appelé Céphas. Bartholomée, ça veut dire fils de Ptolémée. Ou de Ptolémaïe. Son vrai surnom devait être Nathanaël. Son vrai prénom devait être Nathanaël. On ne sait pas très bien, ce n'est pas toujours très clair, mais donc, d'après certains historiens ecclésiastiques, Nathanaël et Bartholomée seraient les mêmes apôtres. Autre raison, le Christ avait dit à Nathanaël, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Puis le Christ lui promit une vision d'ange montant et descendant sur le Fils de l'homme. Il semblait avoir une affection particulière pour lui et le choisit comme ami et apôtre. Alors ici, il y a une autre note d'un Claudius Espeneus, je n'ignore complètement qui c'est. C'est Claudius Espeneus pense que Nathanaël était le même Ursicinus, premier évêque de Bourges. N'oubliez pas que la France a eu le privilège de recevoir la foi catholique dès le début, tout à fait au début. Entre autres, par exemple, un autre exemple qu'on peut citer, et c'est l'exemple des premiers papes qui vont, alors qu'ils n'étaient qu'évêques, déjà missionner en France. Notamment, vous avez l'exemple de, je crois que c'est Saint Clément, donc ils vont devenir les premiers et deuxièmes successeurs de Saint-Pierre, qui ont évangélisé, je crois que c'est Saint-Clément, qui a évangélisé, ça de mémoire, mais qui a évangélisé la région de Besançon. Ou Saint-Lin, peut-être même, je me trompe, je crois que c'est Saint-Lin. Donc, il y a eu Saint-Pierre, puis ensuite Lin, Clé, Clément, les trois premiers successeurs de Saint-Pierre. Donc, Saint-Lin, je crois que c'est lui. Saint-Lin, il n'était pas encore pape, qui allait devenir le successeur de Saint-Pierre, et celui qui a évangélisé la région de Besançon. Et ici, d'autres historiens pensent que Nathanaël, donc un des premiers apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, est venu aussi évangéliser la ville de Bourges. Et on voit très bien comment la France a été... C'est pour ça qu'on dit que la France est filée de l'Église, parce qu'il y a eu vraiment une protection extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la France, en permettant que la France ait des prédicateurs extraordinaires dès le début. Il n'y a pas simplement certains des apôtres qui sont passés par la France, mais même Saint-Paul. Saint-Paul lui-même, dans sa route sur l'Espagne, est passé par Narbonne, et par les villes du nord de la Méditerranée, du sud de la France, en laissant déjà derrière lui une trace par des évêques qui vont commencer à amener la foi catholique dans le sud de la France. Et c'est Saint Paul qui a fait ce travail. Mais il n'est pas le seul. Encore une fois, là, peut-être que Saint Nathanaël, si c'est discuté entre les différents historiens, et il semblerait que Saint Nathanaël devint le premier évêque de Bourges. Comme Saint Lin est devenu le premier évêque de Besançon. Versets 47 et 48, Jésus vit Nathanaël qui venait à lui, et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Et Nathanaël lui dit, « D'où me connaissez-vous ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe vous appelât, lorsque vous étiez sous le figuier, je vous ai vu. » Et ensuite, les versets 49, 50 et 51, en haut de la page 21, Nathanaël lui répondit, « Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je vous ai dit, je vous ai vu sous le figuier, vous croyez, vous verrez des choses plus grandes que celles-là. » Et lui dit, « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Là, il y a un passage assez extraordinaire. Donc, Nathanaël vient de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, il ne le connaît pas encore. Notre Seigneur dit de lui, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Et il précise, « Avant que Philippe vous appelât, lorsque vous étiez sous le figuier, je vous ai déjà vu. » Et ça suffit
pour illuminer Nathanaël qui va faire la première profession de foi, vous êtes le Fils de Dieu. Donc simplement, en voyant notre Seigneur Jésus-Christ, en réalisant que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait vu sous le figuier, il en a déduit, alors il doit être le Messie, c'est donc le Fils de Dieu. On va voir un petit peu les détails avec les pères de l'Église. La question de Nathanaël est la question d'un homme. La réponse de Jésus est celle d'un Dieu. Avant que Philippe vous appelât, lui dit Jésus, « Je vous ai vu. » Il l'a vu non pas des yeux de l'homme, mais de ce regard divin que Dieu abaisse sur les hommes du haut des cieux. « Je vous ai vu », c'est-à-dire « J'ai vu les habitudes de votre vie. » Il est évident que Nathanaël a dû recevoir déjà une grâce de lumière assez extraordinaire, puisque c'est le premier, d'après dans l'évangile de Saint Jean, qui va reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. « Vous êtes le Fils de Dieu. » Cela laisse un petit peu rêveur parce que si des gens qui n'avaient jamais rencontré notre Seigneur Jésus-Christ ont cru aussi vite, qu'en est-il de nous? Nous qui avons reçu une éducation catholique, qui avons reçu une éducation familiale, que nous avons reçu un catéchisme complet, donc si Nathanaël a compris la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ aussi vite, le moins qu'on puisse faire, c'est nous aussi de reconnaître cette même divinité, qu'on devrait reconnaître encore plus vite parce que précisément nous avons beaucoup plus reçu. Plus on a reçu, plus il faut donner. Et une des façons de donner, c'est de reconnaître justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les pères ont quelques mots intéressants sur le figuier. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous ai vu sous le figuier ». Qu'est-ce que représente ce figuier? Eh bien les pères de l'Église vont expliquer, on est en page 21. En page 21, les feuilles de figuier sont la figure des péchés. Pourquoi? Parce qu'au commencement du monde, Adam et Ève, après leur péché, se firent une ceinture de feuilles de figuier. Donc avant le péché originel, ils étaient nus, sans qu'il y ait concupiscence, puisqu'il n'y avait pas encore la concupiscence. La concupiscence est une des conséquences du péché originel. Mais lorsque le péché originel fut commis par Adam et Ève, une des premières conséquences, ça va être la concupiscence qui va attaquer la tempérance. Et donc on voit très bien comment les différents pouvoirs de notre âme, de l'âme d'Adam et Ève, vont être immédiatement attaqués, notamment par la concupiscence qui va attaquer la vertu cardinale de tempérance. Avec l'ignorance, avec la malice, avec la volonté, ce sont ces quatre plaies, si vous voulez, qu'on appelle les blessures du péché originel, qui sont tellement profondes que même après le baptême, elles demeurent. La concupiscence est une conséquence directe du péché originel et n'oublions pas que le baptême enlève le péché originel, bien sûr, mais le baptême n'enlève pas les blessures du péché originel. Il reste des conséquences contre lesquelles nous aurons à nous battre pendant toute notre vie. Notre intelligence va être toute notre vie blessée par l'ignorance, la volonté par la malice, la force par la faiblesse et la tempérance par la concupiscence. Donc les feuilles de figuier, justement à cause de ça, puisque Adam et Ève ont dû se faire une feuille de figuier pour couvrir leur nudité, ces feuilles de figuier sont la figure de la mort, figure du péché. Pourquoi? Parce que Nathanaël, disent les pères, était assis sous un figuier comme à l'ombre de la mort. Et le Seigneur semble lui dire, « Ô Israël, vous qui êtes sans ruse, ô peuple qui vivez de la foi, avant que je vous ai appelé par mes apôtres, lorsque vous étiez encore à l'ombre de la mort et avant que vous ayez pu me voir, je vous ai vu. » Vous voyez comment des choses qui semblent absolument anodines, une feuille de figuier, on n'a pas l'impression que ce soit très important dans le texte, en fait c'est un symbole. Saint Grégoire dit « Je vous ai vu pendant que vous étiez sous le figuier », c'est-à-dire « Je vous ai choisi lorsque vous étiez encore sous les ombres de la loi ». Donc on sort de l'ombre de la loi pour passer sous le soleil de la justice. Donc on sort de l'ombre de la loi qui était représentée par le figuier de l'Ancien Testament pour passer sous le règne de la grâce avec le Nouveau Testament. Pierre, qui a confessé que Jésus était le Fils de Dieu, après avoir été témoin de ses miracles et de sa doctrine, est proclamé bienheureux de ce que le Père lui a révélé cette vérité, tandis que Nathanaël, qui confesse la divinité de Jésus sans avoir vu ni ses miracles, ni vu ses miracles, ni entendu ses divers enseignements, ne reçoit point les mêmes louanges. Et donc, le Père semble dire que la foi de Nathanaël, bien qu'il ait reconnu que notre Seigneur Jésus-Christ fut fils de Dieu, était une foi encore imparfaite. Donc c'est... Il n'y a pas concordance entre tous les pères de l'Église sur ce sujet. Et moi, j'avoue que j'ai toujours été impressionné par ce verset 49, en disant comment Nathanaël a-t-il pu deviner que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La réponse est qu'il a reçu une grâce spéciale. Mais il n'avait pas encore une connaissance profonde de cette divinité. Vous voyez ? Alors, voilà ce que disent les pères, c'est que Pierre et Nathanaël ont tenu le même langage, mais sans y attacher le même sens. Saint-Pierre, plus tard, va refaire cette profession de foi, il va reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre a confessé que Jésus était le Fils de Dieu et vrai Dieu lui-même. Nathanaël, au contraire, ne voit encore en lui qu'un homme. Car en lui disant « Vous êtes le Fils de Dieu », il ajoute « Vous êtes le roi d'Israël ». Donc il y a une espèce, d'après certains pères, de contradiction entre dire « Vous êtes le Fils de Dieu » et en même temps « Vous êtes le roi d'Israël ».« Vous êtes le Fils de Dieu ». Là, c'est la divinité qui déjà semble se présenter. Et immédiatement après, il rajoute « Vous êtes le roi d'Israël ». Donc il pousse plus sur l'humanité. Donc la foi, la divinité n'est pas encore suffisamment profonde chez Nathanaël, d'après certains pères de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ n'ajouta rien à la confession de Pierre. Il considéra sa foi comme parfaite et lui prédit que sur cette confession, il bâtirait son Église, tandis que pour Nathanaël, dont la confession était moins complète et laissait beaucoup à désirer, il élève à des considérations plus hautes. Certains pères sont quand même assez sévères sur Nathanaël, peut-être pour protéger la réputation de Saint-Pierre qui allait devenir le premier pape. Donc, certains pères donc expliquent que Nathanaël n'avait pas encore tout compris, évidemment, c'était tout à fait le début, et donc la profession de foi de Nathanaël ne doit pas être prise au sens propre, mais doit être amoindrie par le fait que Nathanaël a voulu trop associer l'humanité à la divinité en rappelant que notre Seigneur Jésus-Christ était le roi d'Israël. Vous voyez ? S'il avait dit simplement « Vous êtes le Fils de Dieu », sans rajouter « Vous êtes le roi d'Israël », il aurait manifesté une foi plus parfaite. Bon. C'est un texte un peu bizarre, un peu compliqué, il faut avouer ce qui est. Donc, c'est une leçon pour nous, parce que nous, souvent, nous nous arrêtons à des choses purement matérielles, au moins au début. Et notre Seigneur Jésus-Christ doit nous élever pour passer des choses secondaires aux choses principales. Il faut passer du paraître à l'être. Et souvent, notre foi est imparfaite, comme comme ceux qui croyaient, déjà, ils voyaient notre Seigneur Jésus-Christ le Messie, mais ils voyaient notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie parce qu'ils avaient été nourris par lui. C'est évident que quand notre Seigneur Jésus-Christ fait un miracle extraordinaire, il multiplie les poissons, multiplie les pains, ou fait une pêche miraculeuse, bon, c'est facile de voir qu'il c'est un homme extraordinaire. Mais souvent, les raisons pour lesquelles il voit cette divinité sont des raisons encore trop naturelles. Vous voyez, donc Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va purifier la foi de ses apôtres petit à petit pour les faire... les élever, si vous voulez, de plus en plus haut dans la croyance, en la foi, en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus donc lui dit, « Parce que je vous ai dit, je vous ai vu sous le figuier, vous croyez, vous verrez des plus grandes choses. » C'est-à-dire, vous regardez comme une chose extraordinaire ce que je vous ai dit, à savoir que je vous ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que vous me proclamez roi d'Israël. Que direz-vous donc lorsque vous verrez de plus grandes choses? Et quelles sont ces choses? En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Donc, le Seigneur annonce à Nathanaël qu'il va voir beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Et ça va venir petit à petit. Donc, les pères font remarquer comment notre Seigneur Jésus-Christ élève Nathanaël peu à peu au-dessus de la terre et l'amène à reconnaître que le Christ n'est pas simplement un homme, mais aussi Dieu. Et comment celui qui a les anges pour serviteurs pourrait-il n'être qu'un homme? Il se fait donc connaître pour le maître des anges qui descendirent sur lui et montèrent avec lui comme les ministres de sa divine royauté. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 51, « Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc il annonce déjà qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir et qu'il va voir de plus en plus de choses extraordinaires pour comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que veut dire ce texte de ces anges qui montent et qui descendent, hein? En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les anges descendirent sur notre Seigneur au moment de sa mort sur la croix et montèrent au temps de la résurrection de son ascension. Rappelez-vous, l'ange consolateur qui vient réconforter notre Seigneur Jésus-Christ. Et au contraire, les anges vont réapparaître après, notamment au moment de la résurrection. C'est un ange qui va apparaître à Sainte Marie-Madeleine pour lui dire que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. On va voir aussi ces anges réapparaître plus tard au moment de l'ascension de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur est monté au ciel, les apôtres sont tout tristes d'avoir perdu notre Seigneur. C'est encore un ange qui va venir leur annoncer que notre Seigneur reviendra à la fin des temps. Allez vous préparer à recevoir le paraclet dans la ville de Jérusalem. Donc, l'ange qui descend représente le mystère de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et l'ange qui monte représente sa résurrection, son ascension. C'est une allusion évidemment à ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Le chapitre 32 du livre de la Genèse. Puisque Jacob, qui fut appelé Israël, a vu cette échelle en songe, et que d'un autre côté, Nathanaël, au témoignage Jésus, est un vrai Israélite, c'est avec raison que le Sauveur lui rappelle le songe de Jacob. Comme s'il lui disait, le songe de celui dont vous portez le nom se réalisera pour vous-même, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On va voir cette même image du ciel ouvert juste avant le martyr de Saint-Étienne, premier martyr. Saint-Étienne parle justement qu'il voyait le ciel ouvert, la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il a été lapidé par les Juifs. Donc, si les anges descendent sur notre Seigneur, ils montent aussi jusqu'à lui, car il est tout à la fois dans les hauteurs des cieux et sur la terre, il est en haut dans sa propre nature, il est en bas dans la personne des siens. C'est une autre image, les anges qui montent, rappelle la divinité de notre Seigneur. Les anges qui descendent rappellent l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est à la fois dans les hauteurs des cieux et sur la terre, ça veut dire qu'il est à la fois Dieu et homme. Étant Dieu, il est dans les hauteurs des cieux, étant homme, il est sur la terre. Vous voyez ? Donc, les pères font une autre remarque en disant que les bons prédicateurs qui annoncent vraiment Jésus-Christ sont les anges de Dieu. Ils montent et ils descendent sur le Fils de l'homme. À l'exemple de Saint Paul qui monta jusqu'au troisième ciel et qui est descendu jusqu'à donner du lait pour nourriture aux petits-enfants. Donc il faut, encore une fois, nous aussi suivre le même chemin. On va passer par le chemin de la souffrance, le chemin des humiliations, pour finalement pouvoir monter avec les anges au ciel pour atteindre la gloire. On n'atteint pas la gloire tout de suite. La gloire, elle s'obtient par la grâce. Donc, on passe de la nature à la grâce, de la grâce à la gloire, et la gloire ne peut être atteinte qu'au ciel. Mais pour pouvoir atteindre le ciel, il faut une clé, et cette clé, je vous l'ai souvent dit, cette clé, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où cette expression des anges qui montent et descendent sur le Fils de l'homme. Une expression très, très spéciale, un peu particulière, et, il faut avouer, difficile à comprendre. autre sens donné par Saint Grégoire le Grand, un sens mystique. Je vous ai vu sous le figuier, sous l'ombre de la loi, on a déjà expliqué ça, pour vous transporter dans la vigne de mon évangile. Donc on passe des choses de l'Ancien Testament, la loi, symbole de l'Ancien Testament, pour passer dans la ville de l'évangile, dans la vigne pardon, de mon évangile, là c'est le Nouveau Testament. Vous voyez ? Donc on quitte l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau Testament. C'est ça le drame, si vous voulez, avec les Juifs actuels, c'est qu'ils sont encore dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a le droit de le suivre, autant avant notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, on ne peut plus suivre les lois de l'Ancien Testament. Les lois cérémoniales de l'Ancien Testament qui sont devenues des lois mortifères parce que justement par sa mort sur la croix le rideau du temple a été déchiré et on ne peut plus suivre aujourd'hui les lois cérémoniales de l'Ancien Testament parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc l'église juive était une véritable église au temps de l'Ancien Testament, mais est devenue une fausse église aujourd'hui parce que justement ils ont refusé, cette église, l'église juive a refusé de reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, attend toujours le Christ alors qu'il est déjà venu. Tropologiquement, c'est-à-dire moralement, sens tropologique c'est le sens moral, c'est la même chose, Dieu et le Christ sont partout présents et doivent être craints, même quand vous êtes seul dans votre chambre, car le Christ vous regarde, considérant vos pensées et désirs secrets dans votre âme. Veillez donc à ne pas offenser les yeux de sa majesté. Je pense que c'est un point très important ici dont parlent les pères. Il me semble que un des meilleurs moyens de vivre, de rester en état de grâce, c'est de réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ nous voit tout le temps. Toute une série, imaginez un enfant qui ne fera jamais une bêtise si sa mère est devant lui. Bon, il veut chipper des bonbons dans un bocal à bonbons à la cuisine, derrière le dos de sa mère, il attend que sa mère ne le voit pas. Si sa mère est là, il ne fait rien, évidemment. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. Donc, si je réalise que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, me voit constamment, est près de moi constamment, et toute une série de péchés qu'on ne commettrait jamais. On ne va pas commettre un péché si notre Seigneur Jésus-Christ est assis juste devant moi. Oui, donc peut-être qu'il faut méditer là-dessus et réaliser cette présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur Jésus-Christ nous voit puisqu'il est Dieu, c'est lui qui m'a créé. Il est dans la pièce dans laquelle je travaille actuellement, il est dans cette pièce, dans ce bureau dans lequel j'enregistre ma conférence. Même si je ne le vois pas, il est là d'une certaine façon puisqu'il est, c'est lui qui a créé le monde. Donc il est là par sa présence, et par sa puissance et par son essence, dit saint Thomas. Il est là par sa présence parce qu'il est partout, il est là par sa puissance parce qu'il peut tout, il est là par son essence parce qu'il est cause de tout. C'est lui qui me maintient dans l'être. Vous voyez ? Donc je crois qu'il faut beaucoup insister sur ce point-là avec les enfants. Les faire réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ les voit et est témoin de tout ce qu'ils font. Certainement qu'on peut plus facilement obtenir l'état de grâce chez les enfants en insistant sur la présence de Dieu qui est devant nous par sa présence, sa puissance et son essence que en méditant sur l'enfer par exemple, bien que l'enfer soit nécessaire pour nous maintenir en état de grâce, c'est le grand missionnaire du ciel, cependant il vaut mieux essayer de vivre en état de grâce parce que je réalise que notre Seigneur Jésus-Christ est présent devant moi et témoin de tout ce que je fais, plutôt que de vivre en état de grâce simplement par crainte de l'enfer. Pourquoi ? Parce que si je réalise que notre Seigneur Jésus-Christ est présent devant moi, je parle ici, on peut avoir une contrition parfaite de nos péchés. Si au contraire, je ne pêche plus simplement parce que j'ai peur de l'enfer, c'est une contrition imparfaite. La contrition parfaite est beaucoup plus élevée. C'est pour cela que la contrition imparfaite, le regret de ses péchés par peur de l'enfer, est insuffisante pour effacer les péchés. Il faut se confesser pour pouvoir transformer une contrition imparfaite en une contrition parfaite. Au contraire, la contrition parfaite, si je regrette mes péchés par amour de Dieu, donc parce que je réalise que notre Seigneur Jésus-Christ me voit en permanence et que j'ai cet amour du bon Dieu, la contrition parfaite efface les péchés même sans confession, ce qui n'est pas le cas de la contrition imparfaite. Donc, de même que le Christ vit Nathanaël sous le figuier, ainsi il voyait aussi Adam sous le figuier mangeant le fruit défendu. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est partout. Donc il a vu Nathanaël sous le figuier comme il avait vu Adam se faire tromper par le démon et manger le fruit défendu à la suite de son épouse. Par cette vision des anges qui montent et qui descendent sur lui, le Christ nous signifie qu'il est le prince non seulement des hommes, mais aussi des anges. Et qu'il est vrai Dieu, le Fils de Dieu, car les anges agissent comme ses ministres pour obéir à ses ordres au ciel et sur la terre. Autre explication de Saint Jean Chrysostome, un autre père de l'Église. Saint Jean Chrysostome, donc, en commentant ce verset 51, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. Il pense que cette montée et cette descente des anges sur le Christ prit place pendant l'agonie et la sueur du sang au jardin des Oliviers, quand l'ange consolateur apparut pour le réconforter, et cela arriva également quand les anges apparurent aux sept femmes pour leur annoncer sa résurrection. Donc, je vous ai déjà expliqué, l'ange qui descend, c'est la passion. L'ange qui monte, c'est la résurrection et l'ascension. Alors, il y a des points importants, là, pour terminer ce commentaire sur le chapitre 1er de Saint Jean. Il y a des points importants, page 22. Donc, cette vision des anges qui montent et qui descendent prit place pour montrer que le Christ avait réconcilié les hommes et les anges, la terre et le ciel, avait restauré la mutuelle communion et amitié qui existe au paradis. Donc, l'ange qui descend sur l'échelle de Jacob, qui monte et qui descend. Le texte dit bien que les anges montent et descendent, les deux à la fois. Ça montre que les anges vont mettre une espèce de pont qui va du ciel à la terre, de Jérusalem à Jéricho. Et donc, les anges vont et viennent entre notre Seigneur Jésus-Christ et nous pour nous transmettre les ordres de Dieu. Les anges sont les défenseurs de la volonté divine. Ce sont donc eux qui vivent au ciel et qui vont venir transmettre aux hommes la volonté de leur Dieu, qui est aussi notre Dieu. Donc, ces anges qui montent et qui descendent nous indiquent aussi que les catholiques sont des étrangers sur la terre et doivent converser avec les anges en imitant leur vie angélique comme citoyens avec les saints dans la maison de Dieu. Autre note des pères, cette vision de l'ange, des anges qui montent et qui descendent nous assure que les anges sont nos gardiens. Pour nous défendre contre les attaques des hommes et des mauvais esprits, les attaques du démon, nous pousser à la pratique des vertus héroïques et nous porter au ciel à notre mort. Donc l'ange descend pour venir chercher les âmes ici-bas et remonte au ciel en accompagnant les âmes pour les faire passer de l'église militante à l'église triomphante. Ainsi, les anges donc montent pour offrir à Dieu nos prières et nos supplications et descendent pour nous apporter les dons gracieux de Dieu. Ces prières qui montent vers Dieu sont symbolisées par l'encens. L'encens qui brûle pendant la messe solennelle, représente justement nos prières qui montent avec les anges pour porter nos adorations devant notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, dernière note des pères, cette vision des anges qui montent et qui descendent nous est donnée pour déclarer la majesté du Christ, l'obéissance et la révérence des anges. Car le Christ a été établi bien au-dessus des principautés, des puissances, des vertus, des dominations et de toutes les puissances, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui du monde à venir. Et c'est très beau de méditer. L'homme a une dignité extraordinaire parce qu'il a été créé par Dieu. Et on voit très bien que tout est centré sur ce mystère de l'incarnation, ce mystère de la rédemption. C'est pour ça que la Terre est au centre de l'univers, et tout l'univers tourne autour de la Terre, parce que la Terre est le lieu de l'incarnation, le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour pouvoir mourir pour nous sur la croix. Voilà, donc j'ai terminé le chapitre 1er de Saint Jean. La prochaine fois, si Dieu veut, je vais commencer le chapitre 2. Donc, je me suis pas mal avancé. J'ai déjà donc enregistré, mis en ligne toutes les conférences du mois de novembre parce que je vais être extrêmement pris après avec mon propre déménagement. je vais faire cette semaine. J'enregistre cette conférence le 10 novembre. Je vais être très pris après par mon propre déménagement. Et je dois aussi organiser le déménagement de ma vieille maman qui va venir vivre avec moi, parce que je sais de lui faire éviter les l'EHPAD. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.